Les conférences du Collège de France.
Bienvenue. Bienvenue au Collège de France pour la première des quatre leçons qui vont être données par le professeur Claude Desplantes dans le cadre de son cours en tant que professeur invité. C'est que le Collège de France nous donne la possibilité d'inviter des personnalités extérieures pendant un mois pour donner quatre leçons. Comme l'année passée, vous vous souvenez peut-être, certaines d'entre vous, le professeur Choubin venait d'une institution qui est une institution partenaire du Collège de France, l'Université de Chicago. Cette année encore, ça fait partie d'un partenariat que nous avons avec l'Université de New York, NYU, à laquelle, comme je vais vous le dire dans une minute, le professeur Desplantes appartient. Avant que je vous dise quelques mots sur le professeur Desplantes, j'aimerais vous dire une chose importante, c'est que ces quatre lectures seront enregistrées, comme tous les cours du Collège de France en fait, et mises à disposition sur le site du Collège de France. Et par conséquent, je vous prierai de ne pas interrompre et de ne pas poser de questions pendant la conférence, puisqu'en fait ces questions ne sont pas audibles et interrompent l'enregistrement. Par contre, vous aurez tout le temps de poser toutes les questions qui vous semblent pertinentes à la fin, puisqu'il y a une grande session de questions qui est question-réponse qui est prévue. Alors, quelques mots sur Claude Desplantes. Claude étudie à l'école normale à Saint-Cloud il y a quelques années. Passe l'agrégation, fait une thèse à Paris en biochimie, en biologie moléculaire. Et puis, je pense qu'un des tournants majeurs de sa carrière sera son départ pour un stage postdoctoral en Californie, à l'Université de San Francisco, dans le laboratoire de Patrick O'Farrell. Et c'est là qu'il va vraiment se familiariser à la génétique de la mouche. Et puis aussi, au début de l'étude, c'était les années 80, milieu des années 80, de l'étude de ce qu'on appelle des facteurs de transcription, ces protéines qui lient l'ADN, qui régulent les gènes, comment est-ce qu'elles se lient à l'ADN, par quels moyens elles régulent l'activité des gènes. Et c'est en partie grâce au travail de Claude et de son laboratoire de postdoc que ce domaine a commencé à être vivant, en fait. C'est là-bas aussi qu'il a commencé à étudier de nombreux gènes chez la mouche qui sont extrêmement importants pour l'organisation du plan de la mouche, des gènes non seulement qui sont ce qu'on appelle des gènes homéotiques, mais des gènes GAP aussi, en particulier des gènes de polarité segmentaire, en particulier le gène Engrailed, sur lequel Claude a beaucoup travaillé. Et puis, à la fin du siècle passé, j'aime bien dire ça, à la fin des années 90, en fait, Claude va... après son postdoc, je saute une étape, Claude va commencer à avoir son propre groupe sur l'autre côte, à New York, à l'université Rockefeller. Et là, il sera professeur assistant, professeur associé, sera membre de ce qu'on appelle le HHMI aux États-Unis, donc... l'Institut Howard Hughes, qui est la position la plus fameuse que l'on peut avoir aux États-Unis. Et c'est là qu'il va vraiment travailler sur ces questions de clonage, de gènes, etc. Fin des années 90, il va commencer à s'intéresser à la genèse des photorécepteurs de la mouche. Et c'est cette thématique-là qu'il va emmener avec lui quand il va partir à l'Université de New York, à NYU. C'était à la fin des années 90, et ça fait maintenant 25 ans que Claude travaille sur ce système, un système absolument magnifique, comme vous allez le voir, qui lui permet encore aujourd'hui de poser des questions qui sont vraiment des questions essentielles en biologie, et notamment, et c'est le titre de son cours, notamment la balance qui existe entre des événements stochastiques et des événements déterministes pour la construction d'un organe. en particulier appliquée à la production et la détermination des neurones qui vont faire les organes visuels de la mouche. Et puis on verra plus tard dans le cours, et ça il vous dira, en utilisant également d'autres systèmes modèles. Je ne vais pas vous donner tous les marques de reconnaissance que Claude a reçues, les prix, etc. Je vais peut-être en mentionner seulement deux. Claude a été élu à l'Académie, National Academy of Science, donc à l'Académie des sciences américaines, qui est aussi une des plus hautes distinctions qu'on peut avoir aux États-Unis. Et puis plus récemment, il a reçu un prix qui s'appelle le Ed Conklin Prize de la Société américaine de biologie du développement, qui là encore est un prix tout à fait remarquable en reconnaissance de l'ensemble de son œuvre, qui n'est pas terminée, comme vous le sentirez aujourd'hui. Voilà, je suis super content que Claude ait accepté de venir pour ces quatre leçons. Et puis, comme le veut la tradition, puisqu'on n'est jamais exactement sûr de ce qu'il va nous raconter, si ce sera bon ou pas bon, on lui donne la médaille avant. Claude.
Je te remercie de ta confiance.
C'est la médaille.
Merci Denis, et c'est un grand plaisir d'être ici et de voir que j'ai une audience. C'est toujours quelque chose qui te fait un peu peur quand on commence ce genre de séminaire. Et c'est aussi une des rares fois où je dois parler en français. Et grâce à Claude, j'ai réussi à traduire toutes mes diapositives de l'anglais au français. Et donc je vous recommande très fortement Claude, not me. Okay. Donc, je vais vous parler pendant ces quatre cours de ce que l'on fait au niveau de la détermination de la diversité des gènes. Et ça va être, en fait, voir un nombre de projets qui sont assez différents, qui, d'une part, comparent le système visuel dans l'endophile, mais aussi le comportement d'animaux eusociaux, qui sont les fourmis, et aussi le développement du système olfactif chez les fourmis. Donc vous verrez qu'il y a une certaine cohésion dans tous ces différents séminaires, mais peut-être que ce n'est pas évident a priori, donc vous le verrez à la fin si vous pouvez continuer à venir. D'accord ? Donc ça, c'est les différents cours que je vais avoir, je reviendrai là-dessus. Donc aujourd'hui, on va parler avant tout de comme disait Denis, de détermination déterministe des neurones, et la semaine prochaine, on parlera beaucoup plus de détermination plus stochastique. Ensuite, on va passer un petit peu au niveau de la fourmi, qui en fait a un cerveau qui est complètement différent d'un certain côté de la mouche, de celui de la mouche, dans la mesure où c'est avant tout un système de communication par phéromone. Et donc, elle a adapté son système olfactif à ce système, et aussi tout le système qui traite l'information olfactive pour pouvoir vivre en société. Et en fait, à la fin, je vais aussi enfin, de parler enfin, comment ces phéromones arrivent à permettre la vie en société et comment la vie en société peut arriver à voir que des génomes qui sont extrêmement similaires peuvent avoir des conséquences très différentes entre une reine et une travailleuse, par exemple, qui en fait a des conséquences énormes, par exemple, au niveau de la longévité. Les reines vivent 10 ou 20 ou 50 fois plus longtemps que les travailleuses et on commence à savoir un petit peu pourquoi. Donc, on va commencer avec les contributions spatiales et temporelles, la diversification neuronale. Et je vais essayer d'utiliser ce système C'est pour permettre aux gens qui sont sur l'Internet de voir les pointers. Bon. Donc, bien sûr, on peut parler de neurobiologie, de neurones, sans parler de Cahal, Ramón y Cahal, qui, en fait, est non seulement un énorme neurobiologiste, mais aussi un grand artiste. On a très peu l'occasion de voir ses dessins, qui sont vraiment admirables, qui ont tous été un petit peu gâchés par ces sortes de tampons que les archivistes ont réussi à mettre. Mais il y a toutes sortes de dessins qui sont vraiment très beaux et très intéressants et qui disent l'autre pas mal de choses. Donc, il a un peu regardé le système nerveux de tous les animaux, de l'homme, des souris, des fourmis, de n'importe quel animal. Mais on va se concentrer un petit peu aujourd'hui entre une comparaison entre l'homme et les insectes. Donc, le cerveau humain a 80 milliards de neurones, 81 ou 100 milliards de neurones, d'accord ? C'est énorme, c'est vraiment très compliqué et difficile à utiliser. Et d'autre part, dans cette image très belle de Franck Poleux, vous avez ici un neurone, et vous voyez que ce neurone, chacun des points verts ici, représente une synapse d'un autre neurone qui le connaît. Et en fait, ils ont réussi à compter qu'il y avait à peu près 8000 synapses excitatrices et 1000 synapses inhibitrices. Ça veut dire que chaque neurone reçoit en moyenne 10 000 synapses d'autres neurones. D'accord ? Donc, si on compare nos cerveaux humains à nos plus récents chips de Macintosh, on s'aperçoit qu'en fait, le nombre de neurones et le nombre de transistors sont à peu près similaires. On arrive presque au même niveau. Je pense qu'on arrive encore un tout petit peu à faire mieux qu'un bon Mac, et que même l'intelligence artificielle n'est pas forcément à même de faire ce qu'un homme est capable de faire, mais on ne sait pas. Donc 80 millions de neurones par rapport à 28 milliards de transistors, et il y a, ceci dit, 10 000, il faut multiplier ça par 10 000 pour arriver à avoir au nombre de connexions, et chaque connexion, c'est en fait une unité de calcul, ce qui fait qu'en fait, un cerveau humain peut avoir une puissance de calcul de 100 teraflops par rapport aux 4,5 teraflops pour un bon, très bon Mac. Ceci dit, au niveau graphique, ils sont un petit peu mieux, ils arrivent presque au niveau de l'homme. Okay ? Donc, c'est très compliqué, et le question, c'est qu'en fait, non seulement vous avez beaucoup, beaucoup de neurones, mais aussi vous avez beaucoup, beaucoup de neurones qui dépendent, qui ont des formes et des propriétés qui sont complètement différentes. C'est un très petit exemple de type de neurones qui sont très différents les uns des autres. Vous pouvez reconnaître vos neurones spécifiques. Et donc, en fait, on peut se poser la question, qu'est-ce que c'est qu'un neurone et qu'est-ce que c'est qu'un type cellulaire ? Tout cela sont très différents d'entre eux, mais par exemple, il y a beaucoup de neurones qui peuvent se ressembler d'un point de vue morphologique. Donc, en fait, ici, vous avez des techniques modernes qui sont des Brainbow, qui permettent de marquer chaque neurone d'une couleur différente et pouvoir les analyser en détail. Et donc, en fait, ce qu'on veut, c'est essayer de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un neurone, qu'est-ce que c'est qu'un type cellulaire. On peut un peu dépendre de la morphologie, donc on peut, ce qu'on vient de vous montrer, toutes sortes de types de neurones. Ça peut aussi correspondre à la qualité du transcriptome de chacun de ces neurones, qui peut différer énormément d'un neurone à un autre, et bien sûr, qui peut différer en fonction de sa fonction, c'est-à-dire qu'en fonction de la manière dont ils répondent à un stimulus ou à un autre stimulus, en particulier les propriétés fonctionnelles par électrophysiologie. Donc, on va essayer de prendre tout ça pour savoir comment est-ce qu'on définit un type neuronal. Okay ? Le problème, c'est que est-ce que vous savez un petit peu quelle idée on peut avoir du nombre de neurones, de type de neurones qui existent dans certaines espèces ? Chez C. elegans, le vert, on sait qu'il y a 302 neurones appartiennent à 118 types neuronaux. Donc, c'est relativement simple et on arrive à les comprendre. Et du très beau travail qui se fait. Chez drosophile, il y a 100 000 neurones. Et il y a eu récemment une reconstruction par microscopie électronique de tout le cerveau, on sait donc tous les neurones, et par morphologie, on peut définir au moins 5000 types neuronaux, d'accord ? Donc, ça c'est chez la drosophile. Et chez l'humain, il y a 80 milliards de neurones, et absolument aucune idée de combien de types neuronaux existent là, dans la mesure où en fait, on n'a pas réussi à avoir une idée globale de cela, même s'il y a des études qui donnent quelques idées, qui sont plutôt de l'ordre de quelques milliers. Je pense qu'en fait, le nombre de types neuronaux chez l'homme est de l'ordre de 100 000 ou peut-être même plus que ça. D'accord. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est un système plus simple pour arriver à comprendre comment se fait cette diversification neuronale. Et donc, on a utilisé pour ça le système visuel de la drosophile. Pour une raison très simple, c'est que l'animal le drosophile, en fait, consacre à peu près 40% de son, 50% de ses neurones à la vision. Quand on voit la grande vitesse et de façon acrobatique dans l'air, on a intérêt à avoir un très bon système visuel. Donc, c'est le système visuel dans le drosophile, qui en fait est un système qui a de très nombreux avantages, dans la mesure où il est relativement simple, autour de 50 000 à 60 000 neurones, et qui est organisé de façon très hiérarchique, dans la mesure où vous avez d'abord la rétine, avec l'œil, d'accord ? Vous avez 800 unités de détection, qui sont en fait 800 photorécepteurs, qui détectent en fait 800 pixels. Okay ? Ces 800 pixels, vous voyez, en fonction, qui sont marqués par le signal vert que vous avez ici, qui en fait marque les photorécepteurs. Les photorécepteurs chez la drosophile sont aussi des neurones. Donc en fait, ils projettent dans les parties plus basses du système olfactif. Et ces neurones, ces 800 photorécepteurs, ou groupes de photorécepteurs qui chacune détecte une pixel, vont projeter en fait à une première partie qui s'appelle la lamina, qui va essentiellement traiter de l'information concernant la détection du mouvement. Quand on voit à très grande vitesse, on a le monde qui tourne autour de nous, donc on a besoin de voir le monde de façon précise. Et en fait, ça aussi projette un peu plus bas, dans la médulla, où en fait, on va avoir la détection de la couleur, les mouches sont capables de voir les couleurs, mais aussi, bien sûr, de traiter au deuxième niveau la détection du mouvement qui vient de la lamina. En fait, la médulla, c'est la partie la plus compliquée, la plus complexe même du système visuel, et qui est aussi, comme la lamina et comme l'œil, composée de 800 unités indépendantes. Donc en fait, un énorme avantage ici, puisqu'en fait, ce qu'on a, c'est que entre l'œil, la lamina et la médulla, vous avez toujours 800 circuits en parallèle qui chacun est capable de traiter l'information pour une pixel. Okay, donc ça veut dire que c'est un système qui est très favorable dans la mesure où on n'a pas un exemple, on a 800 exemples qui sont pratiquement exactement les mêmes partout. Et ensuite, bien sûr, l'information va être envoyée au cerveau central pour pouvoir en fait arriver à avoir une réponse de comportement au système visuel, à la détection de ce qu'ils ont vu. D'accord ? Ok, donc ça c'est le système, et le problème c'est comment est-ce qu'on peut arriver à comprendre la diversification des neurones dans ce système, d'accord ? Donc il y a une cinquantaine d'années, Fischbach, qui est en fait pratiquement un élève de Karal, a utilisé un système de Golgi staining. C'est-à-dire que c'est un système de Golgi, c'est un truc un peu incroyable, qui a été en fait développé par Golgi et utilisé beaucoup par Karal, qui tous les deux ont partagé le prix Nobel, même s'ils se détestaient cordialement. Et donc... Fischbach a réutilisé ce système qui consiste à traiter les cerveaux avec un nitrate d'argent qui va pénétrer dans un neurone par-ci, par-là, ce qui fait qu'en fait on va avoir un système très sparse, comment on dit sparse ? Enfin, bref, ok. Donc très distribué, où en fait on va avoir un neurone à la fois, et il a réussi à reconstruire tous les neurones qui existaient, ou la plupart des neurones qui existaient. Donc c'est une sorte d'illustration ici, on voit ce qu'il a fait, donc toutes sortes de neurones qu'on peut catégoriser en fonction de où est-ce qu'ils projettent, leur forme, etc. D'accord ? Donc ça, c'était en fait dans les années 80, mais il y a à peu près 10 ans, une technique que je pense que vous connaissez tous maintenant, qui est le séquençage d'ARN dans des cellules individuelles, est venu sur le marché. Et je dois avouer que mon laboratoire, qui en fait n'était pas très... tenait pas trop à faire beaucoup de génomique, a complètement changé d'idée. En fait, avant de nous lancer dans le single cell sequencing, qui est en fait, on est parmi les premiers à faire ça, en fait, on n'avait jamais fait un transcriptome ou quoi que ce soit, mais en fait, la puissance de cette technique est vraiment incroyable. Donc, je vous le rappelle, à quoi ça consiste. En fait, c'est par un microfluidics. Ce que vous avez, c'est en fait des neurones individuels vont être mis dans une gouttelette avec une bille qui est unique, qui va marquer tous les ARN de cette cellule par une sorte d'étiquette. Et donc, ce que vous allez avoir, c'est à la fin des 1000, 10 000, 100 000, 1 million de petites gouttelettes qui chacune vont contenir une cellule et un marquage d'ADN qui va permettre de marquer chacun des ARN de cette cellule. Et donc, une fois qu'on a fait ça, il y a aussi un milieu qui permet de faire une lyse de la cellule. Et vous pouvez extraire les ARN et tout ça mélangé ensemble. Et comme ils sont tous marqués par cette étiquette qui vient de ces billes, qui contiennent ces marques, on va pouvoir séquencer tout ça et enfin avoir le transcriptome individuel de 10 000, 100 000, 1 million de neurones. Donc, bien sûr, c'est beaucoup d'informations. Mais on peut traiter cette information et regrouper toutes les cellules qui, en fait, contiennent le même type de transcriptome. Et donc, dans le cas de systèmes qui nous intéressent, dans le cas du système visuel optique, ce que vous avez ici, c'est à peu près 250 clusters, c'est-à-dire 250 groupes de cellules qui ont le même, ou des transcriptomes très reliés, et qui correspondent à environ 250 types cellulaires. Ce que vous voyez ici, c'est quelque chose... Vous avez sûrement vu beaucoup de transcriptomes de single cell sequencing, mais ce qui est étonnant ici, c'est qu'en fait, tous ces groupes de neurones sont en fait bien bien séparés l'un des uns des autres. Ce qui n'est pas souvent le cas, parce que souvent, il y a une sorte, par exemple, chez l'homme ou chez la souris, vous avez une sorte de masse, on peut arriver à colorer différents clusters, mais il y a une sorte de continuum, c'est très difficile de séparer les différents clusters les uns des autres. Chez nous, tout se passe bien, dans la mesure où il semble qu'en fait chaque cellule type cellulaire soit bien séparée, bien distincte au niveau transcriptome. Okay ? Donc vous avez en fait différentes tailles de groupes de ces neurones. Certains sont plus gros, certains sont moins gros. Simplement, ça représente la stoichiométrie de ces neurones dans le lobe optique. En fait, vous voyez qu'il y a tous une sorte de maximum de taille qui correspond à tous ces gros groupes de neurones. Et ça correspond à tous les neurones pour lesquels il y a un neurone pour chacune des 800 colonnes. D'accord ? Il y a peu de neurones, il n'y a pas de neurones, mais en fait, il y a deux neurones par colonne. Ils sont tous au maximum 1, et tous les autres plus petits sont en fait correspondent à des stoichiométries qui sont plus basses, où en fait, il y a un neurone pour 10 ou 20 ou 30 colonnes de pixels. Okay ? Donc ça, c'est bien, sauf que donc on a une information assez énorme là, et d'autre part, donc ce qui est un petit peu différent de ce qu'on voit chez l'homme, où en fait, chez l'homme, on arrive à avoir quelques clusters, mais c'est tellement compliqué et qu'on n'a pas assez de cellules, même si on a des millions. Le Allen Institute à Seattle a fait des choses énormes au point de vue de trouver le transcriptome de chacune des cellules humaines, mais on n'arrive jamais à en avoir assez pour aller séparer bien les zones. Donc des cellules qui sont très proches d'un point de vue fonctionnel ou d'un point de vue transcriptome, sont difficiles à séparer. Et on y arrivera un jour, mais pour l'instant, on n'y est pas là. On arrive à séparer, par exemple, ce qui se passe entre, par exemple, les neurotransmetteurs. Donc, par exemple, vous verrez les neurones glutamatergiques ou cholinergiques. Vous arrivez à avoir des groupes de neurones, mais vous n'arrivez pas à avoir le même système que vous avez ici, où chacun des neurones est vraiment composé d'un cluster qui est bien défini par rapport aux autres. D'accord ? Un petit truc qui nous a un petit peu embêté, malgré tout, c'est qu'au milieu, vous avez cet énorme cluster ici, le bleu, qui est marqué T4, T5. Et en général, quand vous voyez ça dans ce type d'expérience, c'est en fait un peu une sorte de bruit de fond. C'est en fait tous les ARN qui sont échappés de ces billes, qu'ils arrivent à tout. Mais en fait, ce n'est pas vrai, parce qu'en fait, c'est ce groupe ici, ce gros groupe, on sait en fait quels neurones ce sont. C'est les neurones T4 et T5, qui sont en fait 8 neurones type neuronaux, qui sont très importants, parce qu'en fait, ce sont les neurones qui arrive à détecter le mouvement de la drosophile. On sait qu'il y en a 8, je vais vous expliquer pourquoi. Ceci dit, elles sont tous groupées d'un seul côté. On se pose la question, pourquoi ces 8 neurones qui font des choses très différentes, qui détectent des mouvements très différents, pourquoi sont-ils groupés ensemble là, comme ça, d'accord ? Donc, on peut arriver à... Donc, le problème, c'est que quand on a ce genre d'expérience, c'est qu'on arrive à avoir un transcriptome, on sait qu'il y a des cellules qui correspondent à ce transcriptome, mais on ne sait pas a priori quel type de neurone ce transcriptome correspond. Donc il y a tout un travail à faire d'isoler des gènes qui sont spécifiques, qu'on trouve uniquement dans le cluster rouge, par exemple, ou le cluster orange, et d'arriver à voir dans quel neurone ce gène est exprimé. Donc petit à petit, on a réussi à reconstruire pratiquement tout et savoir en fait mettre un nom sur chacun des neurones qui existent dans le système. D'accord ? Donc on en est là. Mais ceci dit, je vous dis, le T4, T5, c'est quelque chose qui nous a un petit peu embêtés, puisqu'on ne comprenait pas pourquoi toutes ces cellules, ces 8 cellules types cellulaires, sont groupées ensemble. D'accord. Donc, on appelle ça T4, A, B, C, D. Il y a 4 subtypes, et T5, A, B, C, D. Je vous l'ai dit, ils sont impliqués dans la vision du mouvement, pour une raison simple, c'est qu'en fait, comme chez l'homme, les mouches, quand elles volent, elles détectent deux choses, soit ce qu'on appelle le on pathway, ça veut dire que soit il peut détecter une bordure lumineuse sur un fond sombre, d'accord, comme ça. Ça, c'est les cellules T4 qui font ça. Par contre, les cellules T5, elles font le contraire. Elles arrivent à détecter un bord sombre sur un fond clair, d'accord. Donc, les T4 et T5 sont ces neurones qui sont ici, ok, et qui, en fait, arrivent à récupérer l'information qui vient de la rétine et qui a été partiellement traité par les étapes précédentes et qui va arriver à déterminer soit le on pathway, soit le off pathway, c'est-à-dire que soit le mouvement d'une brillance ou de quelque chose de sombre sur un autre fond. D'accord ? Pourquoi je dis qu'il y a 4 types, sous-types de chacun ? Pour la bonne raison, c'est qu'un sous-type qui en fait projette T4A va projeter ici sur cette région jaune de cette partie qui s'appelle la lobular plate, okay. Et ce système, ces neurones vont en fait détecter de devant à derrière. C'est-à-dire quand une mouche vole à très grande vitesse, l'espace bouge de devant à derrière. C'est très important. Et donc ces neurones vont répondre uniquement à ce type de réponse. D'accord ? L'autre neurone, T4, T5, T4, T5B, vont faire l'opposé. Ils vont en fait voir un mouvement de l'arrière vers l'avant. Vous allez me dire, les mouches, elles ne vont pas en fait voler à l'avant, à l'envers. Et par contre, quand vous voyez tourner à droite ou à gauche, un des yeux va voir devant à derrière et l'autre va voir de derrière à devant. Donc en fait, c'est quelque chose qui permet de comprendre ce qui se passe quand les cellules tournent. Et C, c'est en fait voir le mouvement vers le haut et D, le mouvement vers le bas. Les mouches volent donc en 3 dimensions, donc c'est important. Donc ces 4 types neuronaux qui sont en fait... font des choses très différentes, n'ont pas des transcriptomes qui sont différents les uns des autres. Pourquoi ça ? La réponse est en fait simple. Ce que je vous ai montré comme transcriptome, c'est le transcriptome de l'adulte. Or, chez l'adulte, tous ces 4 types neuronaux, ou ces 8 types neuronaux, font exactement la même fonction. Ils travaillent exactement de la même manière. Ils sont penchés de façon différente, mais ils travaillent de la même manière. Comment travaillent-ils ? En fait, on le sait, ce qu'on appelle le Raichard détecteur, c'est qu'en fait, en 1958, il y a un modèle qui disait comment on peut détecter le mouvement. C'est très simple, vous avez deux points dans l'espace, deux unités qui détectent la lumière, donc tu as une pixel, deux unités, une qui est là, une là, et si vous avez un système, quelque chose qui vole de gauche à droite, par exemple, il va d'abord stimuler un photorécepteur à gauche, et celui de gauche va en fait avoir un retard de quelques millisecondes qui va permettre d'attendre que celui de droite arrive au même moment, et donc il y aura ce qu'on appelle un coincidence detector. À ce moment-là, on va s'apercevoir que le mouvement va avoir de gauche à droite. Si vous avez un point qui va de l'autre côté, de droite à gauche, les deux points n'arriveront pas en même temps, et donc vous saurez que ce n'est pas un mouvement de droite à gauche. Donc en fait, tous ces neurones T4 ou T5, A, B, C, D, font la même chose. Ils comprennent deux espaces, de devant à derrière, de derrière à devant, haut en bas, ils prennent deux points et ils les comparent. Ce qui est important, c'est qu'en fait, leur connectivité est différente. Et ça, la connectivité est déjà établie au niveau de l'adulte, ce qui fait que même s'ils ont le même traitement de l'information, leur connectivité plutôt a dû être différente. Et donc, il faut regarder plutôt au cours du développement, lorsqu'ils établissent leur connexion, pour pouvoir arriver à trouver des différences fonctionnelles et de transcriptome. Donc, ce qu'on a dit, si on va faire ça, on va essayer de regarder plutôt au cours du développement. Mais le problème, c'est que plus au cours du développement, on ne sait pas trop ce qui se passe à la mesure où les neurones n'ont pas encore pris leur forme et leur fonction, donc c'est un petit peu difficile. Mais ce qu'on peut faire, c'est remonter dans le temps. C'est-à-dire qu'on peut prendre le transcriptome des adultes, où on connaît maintenant bien ce qui se passe, quels sont le nom de tous ces neurones, et remonter dans le temps. Et à 70% de développement, par exemple, on peut voir que vous avez ces neurones qui sont ici, qui sont aussi, et on ne sait pas qui c'est, mais on peut, en fait, pas, ils se rappellent, ceux-là, les vieux, se rappellent de ceux qui étaient un petit peu plus jeunes. Et donc, on arrive à faire à protéger à 100%, arriver à identifier les neurones à 70% de développement, ou de 70, on peut passer à 50, de 50 à 40, 30, jusqu'au niveau du moment où les neurones sont nés. Et donc là, on a tout ce qu'on appelle un profil développemental de tous les neurones, comment, depuis le début où ils sont nés, jusqu'au moment où ils arrivent à la forme adulte, et de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau de la synaptogénèse. C'est le moment où, en fait, on a établi ces connexions de ce type-là, et donc à ce moment-là, on doit avoir des molécules qui sont différentes, puisqu'elles arrivent à brancher ces neurones de façon différente. Et en effet, si vous voyez ce qui se passe au moment de la synaptogénèse, vous apercevez qu'en fait, les 8 types neuronaux sont bien spécifiques à ce moment-là, puisqu'en fait, ils expriment des molécules d'adhésion qui vont leur permettre de se connecter de façon différente et donc d'être distincts les unes des autres. Donc ça veut dire que la diversité neuronale, ce n'est pas uniquement la diversité au niveau de l'adulte, au niveau transcriptionnel, c'est aussi au niveau du développement, lorsque les choses s'établissent de façon fonctionnelle. Donc, à ce niveau-là, on s'aperçoit qu'en fait, on peut arriver à comprendre ce qui se passe au cours du développement, et en fait, on peut pousser les choses un petit peu plus loin, et plus récemment, il y a une nouvelle technique qu'on appelle une combinaison de ATAC-seq et de RNA sequencing, qui en fait consiste à voir non seulement le contenu d'ARN, mais aussi le type de chromatine qui est ouvert dans ces neurones. Et ça, pour une raison qui est un petit peu pratiquement impossible à comprendre, on arrive à avoir une résolution qui est encore plus grande que par simplement essayer de tenir compte du contenu en transcriptionnel. L'ouverture de la chromatine et la transcription ne sont pas la même chose, et ça nous permet de voir un petit peu ce qui se passe au cours du développement. Donc, par exemple, pour ces 8 neurones, on peut arriver à les reconstruire. Ça, c'est quelque chose qui... C'est en fait une sorte de récapitulation du temps de développement, de ce qui va donner lieu à ces 8 neurones. Ces 8 neurones T4, T4, A, B, C, D, et on peut arriver à reconstruire comment ces 8 types de neurones arrivent, en fait, après un nombre de divisions. C'est des divisions asymétriques qui donnent, avec un utilisateur, le système Notch, et en fait, on arrive à reconstruire comment, en fait, le tracé est génétique qui fait que, en fait, le précurseur va diviser une fois Notch on, une deuxième fois Notch on, Notch off, etc. On arrive à définir, à partir de 2 progéniteurs, comment ces 8 cellules arrivent à être définies. Donc, on a quelque chose de très puissant qui va nous dire comment on peut reconstruire la genèse, la neurogénèse de ces différents types cellulaires. C'est un des exemples, 8 cellules uniquement, mais on va arriver à comprendre un petit peu comment ça se passe. Donc, à ce moment-là, ce qu'on va dire, c'est que la question, c'est comment est-ce que cette énorme diversité, 250 neurones, type neurones, qui se ressemblent, c'est tous des neurones, mais ils sont tous différents les uns des autres. Chez l'homme, il y a peut-être 5000, 10000, 50000. Comment est-ce que le génome des 24000 gènes que nous et les mouches partagent, comment ces 24000 gènes peuvent arriver à coder l'information pour arriver à ce que tous ces neurones soient différents les uns des autres? Et comment, un autre problème, arriver à ce que ces neurones qui sont tous différents les uns des autres arrivent à se connecter les uns avec les autres? Donc, est-ce qu'il y a en fait dans le génome assez d'informations pour pouvoir arriver à faire ça? Je vais essayer de vous donner une réponse qui sera en fait oui, il y a assez d'informations, mais bon, il faudra peut-être moduler un petit peu ça. Okay. Donc, la deuxième question, c'est comment ils trouvent leur cycle synaptique. Je ne vais pas trop en parler jusqu'à présent, mais on verra qu'éventuellement, on peut utiliser les mêmes concepts qui permettent de spécifier la morphologie, la fonction et le transcriptome de ces neurones qui peut être aussi impliqué dans la manière dont ces neurones vont arriver à trouver leur cible. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est à laquelle je vais répondre, c'est est-ce que la diversité neuronale a été déterministique, c'est-à-dire qu'elle s'est vraiment encodée précisément dans le génome, ou est-ce qu'il y a une partie stochastique qui permet d'augmenter, si vous voulez, le nombre de possibilités? Et en fait, dans quelle mesure l'environnement, l'activité de neurones, par exemple, peut arriver à augmenter even cette diversité neuronale? Et on sait maintenant, de plus en plus, en particulier par tout ce qui concerne les organoïdes, et Denis fait ça très bien, c'est qu'en fait, on arrive à avoir une sorte d'auto-organisation, une sorte de jeu entre les différentes cellules qui sont spécifiques, qui vont interagir entre elles, pour arriver d'une manière qu'on ne comprend pas du tout, comment elles arrivent à s'auto-organiser pour former quelque chose aussi complexe qu'un cerveau humain. Okay. OK, donc la question que je vais vous poser maintenant, c'est comment peut-on arriver à trouver les mécanismes qui vont permettre de créer la diversification de tous ces neurones? En fait, cette question a été posée il y a de très nombreuses années sur la moelle épinière des mammifères, de la souris. Et vous voyez, au niveau de la moelle épinière de la souris, vous avez en fait, c'est une coupe dans une section de la moelle épinière, et vous avez ici en vert les motoneurones, et ensuite en jaune et en rouge, vous avez les neurones, les interneurones qui permettent de connecter entre les inputs sensoriels et les inputs moteurs de ces motoneurones. Et donc, vous avez en fait les motoneurones qui sont spécifiques en bas de la corde ensuite, vous avez les différents types d'interneurones, et ensuite les neurones en fait sensoriels, ceux qui en fait vont innerver pour sentir ce qui se passe au niveau des doigts ou au niveau des muscles, l'attention. Ça va venir d'un choix un petit peu différent, ce qu'on appelle la crête neurale. La crête neurale qui est en fait des neurones qui proviennent de là et qui vont être en dehors de la corde neurale et qui vont arriver à innerver les muscles et les parties sensorielles. Donc, comment est-ce qu'arriver à distinguer entre les motoneurones, les V2 interneurones, les V1 interneurones? En fait, ça, c'est dû à quelque chose de relativement simple, c'est qu'en fait, il y a un gradient d'un morphogène qui est exprimé au niveau du bas de la moelle épinière et qui va en fait faire un gradient de morphogène qui va permettre de définir ce qui se passe ici. Donc, ce gradient de morphogène, c'est ici illustré. En fait, hedgehog, sonic hedgehog est simplement exprimé dans la partie ventrale de la moelle épinière, d'accord? Et il va y avoir un gradient de protéines, puisque c'est uniquement l'ARN, un gradient de protéines va être produit et va faire un gradient ventral tout dorsal. Au niveau de hedgehog, on va avoir des motoneurones, et plus on va diminuer la quantité de hedgehog qui arrive à des parties plus ou moins dorsales, on va avoir soit les V2 interneurones ou V1, V0, en fait, toutes sortes de neurones, c'est très simplifié ici, d'accord? Donc, ça, c'est le travail, moi aussi, de Tom Jessel et James Briscoe, qui est extrêmement influentiel. D'une part, parce que Tom Jessel était quelqu'un de très charismatique, et que donc, les gens pensaient qu'en fait, tout était dû à ces gradients de morphogènes qui étaient en fait capables de donner différents types cellulaires dans une cellule. D'autre part, on a aussi démontré plus tard qu'il y avait en fait un gradient qui venait de la plaque dorsale, un gradient de BMP, qui faisait donc un antigradient qui va permettre de spécifier de façon encore plus précise. Donc, un travail très influential disant que la spécification spatiale est vraiment la chose la plus importante. Ceci dit, au même moment, on savait aussi qu'il y avait d'autres choses. Et ce qu'on a pu faire, c'est en fait de comprendre les mécanismes aussi par lesquels Sonic Hedgehog était capable de spécifier ça. Donc, ce qu'on peut faire, c'est avant que la moelle épinière ne se referme, on peut prendre un tissu qui est naïf, qui ne sait pas encore ce qu'il va devenir, et le traiter, par exemple, avec la Sonic Hedgehog protein, et de savoir, en fonction de la dose de Sonic Hedgehog, qu'est-ce qu'on peut spécifier comme neurone. Et en fait, ça marche très bien. Si vous mettez très peu de Sonic Hedgehog, vous avez uniquement des interneurones, et plus vous en mettez, plus vous arrivez à mettre des motoneurones, d'accord? Et non seulement la quantité de Sonic Hedgehog est importante, mais aussi le temps d'exposition à Sonic Hedgehog est important. Donc on arrive à avoir une compréhension très détaillée des mécanismes moléculaires qui permettent de spécifier différents types de neurones, et ce travail était vraiment très très influentiel. Okay? Ceci dit, malgré tout, on savait que ce n'était pas la seule chose, puisqu'en fait, ça bien sûr, l'explication, c'est ce qu'on appelle le French Flag Model, donc de Elvis Wolpert. Et donc le French Flag Model, c'est très simple, c'est comment un gradient, par exemple le gradient de Sonic Hedgehog, peut arriver à spécifier bleu, blanc et rouge, motoneurone, interneurone A ou interneurone B, d'accord ? Et donc en fait, c'est simplement par un modèle très simple, c'est un peu même simplistique, où en fait, le bleu est spécifié uniquement à haut niveau de Sonic Hedgehog, parce qu'en fait, le gène qui va définir les cellules bleues est en fait contient des sites de liaison à l'effecteur de Sonic Hedgehog qui sont de très basse affinité, donc il faudra beaucoup de Sonic Hedgehog pour arriver à faire le bleu. Les blancs vont contenir des sites de liaison à cet effecteur de Sonic Hedgehog qui sont de meilleure affinité, et donc il faudra moins de Sonic Hedgehog pour l'activer, donc il va aller plus loin. Et le rouge, va avoir en fait des sites à haute affinité, donc il y a une petite quantité de Sonic Hedgehog va permettre de spécifier le rouge. Mais ça, ce n'est pas un drapeau français. En fait, c'est bleu, blanc, rouge, mais qui sont superposés. Donc ce qu'il faut ensuite, c'est augmenter cela, et donc d'arriver à séparer le bleu, le blanc et le rouge. C'est très simple, il suffit simplement de rajouter des régulations par les effecteurs. Par exemple, le bleu va réprimer le blanc, le bleu va réprimer le rouge, donc en ce cas-là, on va avoir le bleu tout pur, ou bien alors le blanc va réprimer rouge, de telle sorte que vous avez maintenant bleu, blanc et rouge, on peut faire un bon drapeau français. Donc c'est un système conceptuel qui est assez important, peut-être pas toujours exact, mais qui permet au moins de réfléchir, de voir comment les mécanismes moléculaires, comment un gradient d'information peut arriver à spécifier différents types neuronaux. Mais comme je vous le disais, on n'est pas toute la vérité, parce qu'on sait qu'il y a d'autres choses qui vont intervenir dans la spécification des modèles neuronaux. Par exemple, dans la rétine des vertébrés, on sait que les sept types neuronaux qui forment la rétine des vertébrés, notre rétine, sont produits de façon séquentielle. C'est-à-dire qu'en fait, d'abord, on commence par les cellules, les rétinal ganglion cells, qui sont en fait les cellules qui prennent l'information des photorécepteurs et les amènent au niveau des systèmes de traitement de l'information visuelle dans ce qu'on appelle le supraculiculus. Ensuite, on va produire les amacrines, on va produire les bipolaires, et à la fin, les bâtonnets et les Müller glial cells. Donc en fait, on a une séquence qui est produite, et le problème, c'est qu'on sait que le temps est important. On pense qu'ils proviennent tous du même progéniteur, mais on n'a aucune idée comment ce système, comment le temps peut-il être mesuré, comment on commence par des amacrines ou des retinal ganglion cells, et on finit avec des Müller. Qu'est-ce qui se passe ? C'est encore peut-être mieux illustré au niveau du cortex humain ou de souris. Dans le cortex humain, vous savez que votre cortex est à 6 couches superposées, donc superposées, d'accord, qui ont traité différentes tables d'informations, et ça c'est vrai pour tout le cortex. Et donc on sait en fait dans cette mesure que là aussi, ces différentes couches du cortex sont produites de façon séquentielle. Il y a des radiales gliales qui sont en fait les cellules souches, qui sont en fait à la base de ça, et ce que vous avez, c'est qu'au début, vous allez avoir la couche 6 au fond qui va être produite. Donc les neurones vont être produits, vont se diviser, les progéniteurs vont se diviser, ils vont monter dans la couche 6. Ensuite, il y en a qui vont en produire plus tard, ils vont monter à la layer 5, à la couche 4, à la couche 3 et à la couche 2. Donc en fait, il y a un gradient temporel qui va permettre de produire ces différents types cellulaires. Donc le temps est quelque chose qui est vraiment très important. Pendant longtemps, il y avait des grandes controverses en disant qu'il y avait des progéniteurs qui étaient spécifiés pour uniquement donner la couche 6 ou uniquement la couche 5. On sait maintenant que ce n'est pas vrai, qu'en fait, le même progéniteur est capable de produire à la fois 6, 5, 4, 3, 2 de façon tout à fait séquentielle. Et c'est le beau travail de Simon Eppenmayer et Songhai Shah qui ont montré par des techniques d'analyse clonale qu'en fait, ça, c'est un seul progéniteur qui a été marqué très tôt au cours du développement, d'accord, et qui va produire un neurone 5, 4, 3, 2. On sait que ça provient du même progéniteur. Donc, en fait, le temps est très important, mais on ne sait absolument pas au niveau moléculaire, au niveau fonctionnel, au niveau mécanique, comment ce temps peut être mesuré, comment on peut arriver d'une couche à l'autre couche, d'un type cellulaire à un autre type cellulaire, en fonction du temps et de façon successive. D'accord ? Donc on va revenir à notre système et de voir est-ce qu'on peut utiliser notre système pour arriver à trouver quels sont les mécanismes moléculaires qui permettent justement cette spécification de neurones de façon séquentielle en fonction du temps. D'accord ? Donc on va se concentrer sur la médulla, qui est cette partie ici, qui est la plus importante. Elle traite de l'information de mouvement, de l'information de la couleur et de toutes sortes d'informations. Elle va transmettre toute cette information qui est traitée dans des centres supérieurs. Okay. Donc la médulla, c'est en fait la plus grosse partie du système visuel optique. Il y a 40 000 neurones, d'accord, qui dépendent d'après de 100 types cellulaires. Donc il y a 100 types cellulaires de 40 000 neurones. Et en fait, c'est très simple, puisqu'en fait, vous avez, vous vous rappelez, 800 circuits qui sont en parallèle, qui correspondent à ces 800 lignes de GFP, qui correspondent à 800 pixels. Donc, si vous faites un calcul de 40 000 divisé par 800, vous arrivez à peu près, en fonction des stoichiométries différentes, vous avez à peu près 100 neurones qui vont traiter l'information. En fait, on peut dire que chaque colonne ici, chaque colonne est entourée par 100 neurones différents. D'accord ? Comment est-ce qu'on peut générer 100 neurones différents, d'accord ? Qui soient, en fait, répétés de façon 800 fois, parce qu'il y a 800 circuits qui sont en parallèle. Donc la question, c'est comment produire 100 neurones qui vont, en fait, avoir la même fonction dans chacune de ces colonnes, qui chacune traite d'une pixel. Donc comment traiter ces neurones ? Donc en fait, il faut que je donne un petit peu d'informations aussi comment ce système se propose, d'accord ? Donc, ces cellules, ces neurones qui sont produits, ces 100 types de neurones, proviennent en fait de progéniteurs, de cellules souches, qu'on appelle des neuroblastes chez la drosophile, donc des cellules souches. Et ces cellules souches, en fait, de façon très intéressante, qui va être très utile pour nous, proviennent en fait d'une vague de neurogénèse qui va affecter un croissant de neuroépithélium. Donc, c'est des cellules qui sont prêtes à devenir des neurones. Donc, en rouge ou en rose, vous avez un neuroépithélium, une cellule neuroépithéliale. Et ce qui va se passer, ce croissant, à la partie extérieure de ce croissant, va se transformer en une vague de la partie distale vers la partie centrale, se transformer de neuroépithélium, de cellules neuroépithéliales, en cellules souches, donc en neuroblastes. Ici, vous avez appris à moitié du chemin. Donc, en fait, ce que vous avez vu ici, c'est que ce neuroépithélium en rouge a été transformé à la partie la plus externe en neuroblastes. Donc, en fait, il y a une progression qui va dans ce sens-là. Et si on attend un jour ou deux, le neuroépithélium entier va être transformé en neuroblastes. Et pendant très longtemps, on a pensé je vous fais de façon diagramme. En fait, vous avez d'abord donc là, en rouge les neuroépithéliums et en bleu vous avez les neuroblastes qui vont se former. Un peu plus tard, une heure ou deux heures après, vous aurez une autre rangée de neuroblastes, une autre rangée. Et on pensait en fait qu'on a à peu près 800 neuroblastes. Donc je dis 800, c'est à peu près un système qu'on pouvait. C'est un peu difficile de mesurer dans la mesure où on les a jamais tous en même temps. Donc on pensait qu'on avait 800 neuroblastes et c'est un truc un peu bien, puisqu'en fait, vous avez 800 neuroblastes, vous avez 800 colonnes, vous avez 100 types neuronaux, c'est très simple. Vous avez un neuroblast qui va produire 100 neurones qui vont innerver chacune des colonnes. Maintenant, si vous y pensez, ça très, très intéressant comme concept, mais c'est un petit peu difficile d'imaginer comment une cellule souche peut produire 100 cellules. Ça va, 100 cellules c'est possible, mais 100 cellules différentes, toutes différentes les unes des autres. C'est un petit peu difficile à imaginer. Okay. Déjà, 100 divisions, ce serait beaucoup difficile à imaginer, mais 100 divisions qui vont devenir 100 cellules différentes, c'est encore plus difficile à imaginer. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais ce n'est pas loin de la vérité, d'accord, ce qui va se passer. Donc, comment peut-on arriver à ce que ces neuroblastes arrivent à produire 100 neurones différents, et en plus, 100 neurones différents à des stoichiométries qui vont être différentes aussi, puisque certaines vont occuper chacune des colonnes, certaines vont occuper des plus larges et vont occuper plusieurs colonnes. Donc, comment arriver à créer cette diversification neuronale ? Okay. Donc, si on fait une section en travers là, on va faire tourner de 90 degrés. Vous avez donc le neuroépithélium ici. Donc, c'est celui carré qui s'adhère bien aux autres. Et puis, à un moment donné, à la partie extérieure, une des cellules va devenir un neuroblast. Et ce neuroblast, c'est une cellule souche, elle va se diviser, comme toutes les cellules souches, se renouveler elle-même et donner une cellule sœur, une fille. Et cette cellule fille, en fait, c'est une cellule intermédiaire qui va se diviser une fois de plus, une seule fois de plus, et va donner lieu à deux neurones. Ces deux neurones sont différents, je vais y revenir, ces deux neurones qui sont différents parce qu'il y avait une division asymétrique avec notch on, notch off. Donc, en fait, vous avez donc deux neurones qui vont être différents les uns des autres. D'accord ? Une heure et demie après, la prochaine cellule souche, cellule épithéliale va se transformer en neuroblast. Va faire la même chose, donner cet intermédiaire qui va aussi donner deux neurones. Mais le premier neuroblast, il ne s'est pas arrêté, il va continuer à se diviser. Il va se diviser, il va donner encore deux neurones de plus. Et donc vous allez avoir, au cours de, pratiquement une période de deux ou trois jours, vous allez avoir la transformation complète du neuroépithélium en cellules souches de neuroblast qui vont donner toutes sortes de neurones. Et ces neurones doivent à un moment donné devenir différents, puisqu'en fait, on sait qu'on a besoin de produire 100 neurones. Donc, en fait, c'est là que le temps devient important. Parce qu'en fait, vous avez ici ces neuroblastes, ici, ils sont en fait tout jeunes. Ils viennent juste d'être transformés du neuropithélium. Ils sont tout jeunes. Ils ont à peine produit des neurones, alors que ceux-là sont beaucoup plus anciens, sont beaucoup plus vieux, et donc ils ont produit d'autres neurones. Mais en fait, ce vieux neurone, à un moment donné, il a été jeune, comme tous, nous tous. Et donc, quand il était jeune, il ressemblait en fait à celui-là. D'accord ? Donc, ce que je vais essayer de vous démontrer, c'est qu'en fait, ce qui compte, ce n'est pas là où les neurones sont placés, les neuroblastes sont placés, mais c'est quel âge des neuroblastes qui va en fait, donc le temps va être mesuré pour produire différents types de neurones. OK. So, si en fait on marque par des questions, des systèmes, on peut marquer un des neuroblastes spécifiquement, donc c'est des choses qu'on peut faire assez facilement à chaque neurophile. On va donc marquer ce neuroblaste et toute sa progéniture, et on peut voir ici ce qui se passe. Vous avez un neuroblaste qui est ici, et je vais vous en montrer la semaine prochaine beaucoup plus. On va montrer un neuroblaste et toute une colonne de neurones, après une cinquantaine de neurones, qui vont être dessous, et ces neurones, vous le verrez, sont tous différents les uns des autres. Mais comment ces neurones peuvent-ils être différents en fonction de leur âge ? OK. Donc, en fait, on n'avait pas complètement sans concept pour essayer de comprendre ça. Il y a maintenant une trentaine d'années, Chris Doe, qui était mon proche collègue à l'Université d'Oregon, avait obtenu un concept très important pour essayer de comprendre comment ça se passait. Dans la moelle épinière de la mouche, qui est en fait ventrale, il y a des neuroblastes. Et ces neuroblastes vont commencer leur vie en exprimant un facteur de transcription qu'on appelle Hunchback. OK. Quand ces neuroblastes vont se diviser, ils vont se renouveler, ils vont produire un neurone qui va être spécifié par Hunchback. Mais à ce moment-là, le neuroblaste va être fatigué d'exprimer Hunchback, il va effacer Hunchback et mettre en route un autre gène transcription called Cooper. Quand il va se diviser, il va produire un neurone qui va s'appeler Cooper. Ensuite, il va effacer Cooper et exprimer PDM, produire un PDM neurone, et ensuite continuer avec Castor et produire un Castor neurone. Donc conceptuellement, c'est exactement ce qu'on veut faire. Un neuroblaste qui va produire différents types de neurones parce qu'en fait, une série de facteurs de transcription, Hunchback, Cooper, PDM, Castor, va exprimer dans le même neuroblaste au cours du temps pour produire différents types de neurones. Quand ce système est apparu à la fin du millénaire dernier, donc je crois que c'est en 2000, les gens étaient très intéressés parce qu'en fait, ce qu'on voit ici, c'est exactement ce qu'on pourrait imaginer, ce qui se passe dans le cas du cortex humain, où en fait, le même progéniteur est capable de donner couche 6, 5, Fa, 4, 3, 2. Le même progéniteur peut changer les types de neurones qu'il produit dans les différentes couches. Donc, ce serait un système très important pour essayer. Malheureusement, personne n'a jamais réussi à trouver le même système chez les vertébrés, d'accord ? Et chez d'autres espèces. Mais on s'est dit, en fait, on a un petit peu de chance, et en fait, on peut se dire que chez nous, on pourrait trouver le même système. Et dans la mesure où, la manière dont je vous l'ai expliqué, dans une seule, à un moment donné, vous prenez ce qu'on appelle un snapshot de notre lobe optique, vous avez des jeunes neuroblastes et vous avez des vieux neuroblastes. Donc, s'il y avait une série similaire, on aurait Hunchback, Cripple, PDM, Castor. OK ? Et ce serait fantastique. Malheureusement, aucun de ces gènes n'est exprimé là. Mais, on a trouvé la même chose, seulement c'est un petit peu différent, un petit peu mieux. C'est qu'en fait, on a plus de gènes et les gènes sont complètement différents. D'autres facteurs de transcription qui sont complètement différents de ce que Chris Doe avait trouvé. Et donc, on commence à construire maintenant ce qui va se passer. C'est qu'en fait, les neuroblastes jeunes expriment homothorax, ensuite ils vont exprimer ERM, ILS, homeobrain, slobipaire, dakit et TLS. Donc, il semble qu'en effet, ce neuroblaste qui est jeune, là, ici, il exprime homothorax, et celui-là, qui est beaucoup plus vieux, va exprimer TLS. Et bien, quand il était jeune, il exprimait homothorax. Donc, au début, certainement, ces neurones qui ont été produits au début de la vie contenaient l'information pour homothorax, ensuite l'information pour IRM. Et donc, ce que vous pouvez voir, c'est que conceptuellement, on a trouvé la même chose, simplement qu'on a étendu ça à un système beaucoup plus large et aussi à une diversité qui est beaucoup plus importante. Et en fait, pour montrer que ce que je vous dis est vrai, on peut voir un petit peu ce qui se passe au moment où on produit ces neuroblastes. Vous vous rappelez, il y a un croissant. Le croissant avec le neuroépithélium est ici, d'accord ? Et là, vous avez les jeunes neuroblastes, et un peu plus vieux, un peu plus vieux, un peu plus vieux. Et si on avait plus de couleurs sur notre confocal, on pourrait montrer plus. Et celui-là exprime homothorax, ILS, sous le père d'Akit, which is exactement ce qu'on voit ici, homothorax, ILS, sous le père d'Akit, OK ? C'est bien. le cœur. Donc, on a trouvé un moyen qu'en fait, on pouvait produire différents types de neurones en fonction de l'âge de ces neuroblastes. Okay. Et on peut le montrer qu'en fait, c'est vrai, puisqu'en fait, et si vous attendez un peu plus longtemps, si vous attendez quelques jours, tous les rouges vont devenir bleus, tous les blancs vont devenir bleu clair, et tous les bleus clairs vont devenir rouges de nouveau, et vice-versa, les rouges étaient, il y a quelques jours, orange et, ou bleu. D'accord ? Donc, en fait, on a un système qu'on commence à comprendre au niveau fonctionnel, au niveau moléculaire. En fait, c'est un système très simple, c'est qu'en fait, on a une séquence de ces gènes, homothorax, alias ou père d'Achilles. Et ce qu'on peut faire, c'est montrer qu'est-ce qui se passe si on enlève un de ces facteurs intermédiaires. Par exemple, si on fait une mutation dans sous-bipère, dans SLP, qu'est-ce qui se passe ? En fait, le neuroblaste continue à se diviser, mais il reste coincé à l'étape précédente. D'accord ? Donc, ce qui se passe, en fait, c'est que le neurone blast qui exprime le gène X va activer le gène X plus 1, il va réprimer le gène X minus 1. Donc, en fait, il y a une progression qui est un simple réseau de transcription, de contrôle de transcription, où un gène active le prochain et réprime le précédent, et ça permet au système d'avancer de façon systématique, d'avancer de façon progressive, de la première étape à la dernière étape, et tous les gènes qu'on a identifiés ici sont, en fait, suivent ce modèle-là. Très bien, d'accord, mais c'est toujours, on a 5 gènes ici, c'est peut-être pas suffisant pour expliquer toute la diversité neuronale qu'on a, comme je vous dis, on a besoin de produire 100 neurones, d'accord, 100 différents types de neurones, d'accord. En fait, si vous regardez cette image que je vous ai montrée, on s'aperçoit qu'en fait, en effet, il y a homothorax, mais tu vois, il y a pas mal de neuroblastes qui n'ont en fait pas aucun de ces gènes exprimés là. Et en fait, c'est un petit peu normal parce qu'en fait, la manière dont on avait trouvé ces 5 ou 6 gènes, c'est parce qu'on avait des bons anticorps dans le frigidaire et qu'on avait un petit peu essayé tout ce qu'on avait et qu'on avait trouvé ça un petit peu par hasard. Donc, c'est absolument pas systématique. Donc, la question, est-ce qu'on peut avoir une approche plus systématique pour savoir quels sont en fait tous les gènes qui sont exprimés de la partie d'aller plus jeune au plus vieux et d'avoir une vision de ça. Mais en fait, l'information est là. Tous ces gènes vont exprimer dans ces neuroblastes qui sont tous présents à un temps donné du développement. Il suffit de prendre ce système-là et d'utiliser cette technique très puissante de single-cell sequencing où en fait on va trouver le transcriptome de chacun des neurones depuis les plus jeunes jusqu'aux plus vieux, et on pourrait arriver à trouver ce qui se passe au niveau de cette progression des facteurs de transcription. Passons à l'acte. En fait, ce qui se passe, vous avez ici un single cell sequencing, donc de très nombreuses cellules qui sont à différents stades de développement. Et ce n'est pas aussi joli que je vous l'ai montré au précédent, parce que là, c'est le moment où ces cellules se forment. D'accord ? Donc, on voit très bien ce qui se passe. C'est que vous avez, en fait, ici, vous avez les neuroépithéliums, d'accord ? Qui vont donner les neuroblastes. Les neuroblastes vont se diviser, vont donner des neurones. Et oui, ces longues trajectoires, c'est en fait ce que les neurones vont mûrir, vont acquérir leur spécificité, mais ils sont déjà spécifiés. Et si on ajoute à ce moment-là l'étape plus tard que je vous ai montré au début de mon talk, quand on a montré tout ceci, on peut, en fait, les neurones qui sont mûrs, on peut voir qu'ils arrivent tous à la fin de cette trajectoire. Donc on peut en fait reconstruire toute l'histoire de chacun des neurones depuis le moment où il était encore un neuroépithélium, où il est devenu un neuroblaste, il est devenu un neurone, et un neurone qui est mûri, qui va devenir ici. Donc, vraiment, une quantité d'informations énorme. D'accord ? Et donc, on peut moins savoir si on se concentre sur les neuroblastes, est-ce qu'on peut reconstruire l'histoire temporelle de tous ces neuroblastes qui correspondent. Et vous voyez déjà que ces neuroblastes ont une certaine structure. C'est ce qu'on appelle un U-map, c'est-à-dire que ça fait un rendu uniquement de l'ordinateur qui simplement essaie de grouper les cellules en fonction de leur proximité au niveau transcriptionnel. Donc, si vous voyez ce qui se passe, quelque chose d'assez étonnant qui se passe, c'est qu'en fait, si vous groupez toutes ces cellules, chacun des points, c'est une cellule individuelle, un neuroblast individuel, et vous apercevez que celles qui expriment homothorax sont groupées en bas, ensuite ALS, ensuite stobipère, d'Achilles et Achilles. Donc, vous avez exactement ce qu'on a. Cette picture, cette image qui est ici, c'est exactement ce que l'ordinateur nous redonne. Il nous redonne exactement la même chose. Sauf qu'une est complètement artificielle, l'autre est purement naturelle. Et comme je vous le disais tout à l'heure, vous voyez qu'en fait, dans cette série temporelle, vous avez des neuroblastes qui n'ont aucun des gènes qu'on avait trouvé qui n'expriment ça. Donc on peut savoir maintenant, en fonction de ça, quels sont les facteurs de transcription qui sont exprimés uniquement dans cette lignée blanche, ou cette lignée blanche, ou cette lignée blanche. Donc en fait, on peut faire ça, et on s'aperçoit en fait qu'on veut identifier tous les facteurs de transcription temporels qui sont exprimés entre les homothorax et ALS, entre ALS et DACIT, etc., etc. Et donc, ce qu'on voit, c'est ça. Donc, c'est à l'échelle En X, c'est en fait le temps. Et on s'aperçoit que les gènes qu'on avait déjà déterminés, homothorax, ALS ou hyperdélaquité, elles sont là. Et entre les deux, on peut trouver d'autres facteurs de transcription qui sont exprimés de façon temporelle, avec un pic, un autre pic, un autre pic, un autre pic. Et donc, on a en fait reconstruit de façon tout à fait systématique tous les facteurs de transcription qui sont exprimés l'un après l'autre dans, dans chacun des neuroblastes. Donc, chacun des neuroblastes va produire cette série temporelle, d'accord ? Et donc, et va donner à chaque fois, de chaque fenêtre temporelle, va donner un neurone différent. Et ça, c'est dans, regardez ce qui se passe dessous les neuroblastes, ce sont tous les neurones, et ça rappelle énormément ce qu'on a vu dans le cortex humain, avec les couches 6, 5, 4, 3, 2, 1. On voit simplement qu'il y a différents neurones qui sont produits à différentes périodes de développement. Ok, donc on commence à avoir une idée très précise, non seulement de la, du fait qu'il y a des, le temps est important, mais aussi comment le temps peut être traduit dans cette évolution des neuroblastes qui vont exprimer l'un après l'autre différents facteurs de transcription. D'accord ? Okay. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que si ce que j'ai dit est vrai, c'est que X active X plus 1 et réprime X minus 1, ça veut dire qu'en fait, X et X plus 1, X minus X minus 1 vont être exprimés ensemble. Donc en fait, chaque fenêtre temporelle n'est pas un facteur de transcription, c'est A, A plus B, B, B plus C. Okay. Donc en fait, on a en fait un chevauchement. Et donc en fait, ce n'est pas les 12 gènes que je vous ai définis qui pourraient devenir 12 fenêtres temporelles, mais en fait, non seulement ça, mais les combinaisons de 2 ou 3 facteurs de transcription qui vont définir chacune des fenêtres temporelles. D'accord ? Donc en fait, c'est ce qu'on a ici, c'est qu'on a le neuroblast qui est ici. Au début, il va exprimer donc homothorax tout seul. Okay. Ensuite, il va tourner, il va mettre en route OPA. OPA va réprimer homothorax, il va activer IRM. IRM va réprimer OPA et activer ALS, et so on, et comme ça. Ce qui fait qu'en fait, on peut définir quelles sont les différentes étapes. Et vous pouvez définir après 12 fenêtres temporelles qui vont donc définir 12 neurones différents. On a besoin de 100, on est un petit peu loin du compte, mais on va y arriver, d'accord ? Donc on peut voir, par exemple, dans les premières semaines temporelles, il va produire un intermédiaire. Vous vous rappelez, il avait un intermédiaire. Ensuite, il va se diviser une fois de plus, notch on, notch off. Vous vous rappelez de ça ? Ok. Enfin, ce qui va se passer, c'est donc à la fenêtre temporelle homothorax, il va produire deux neurones, un notch on, un notch off. Et on sait que le notch on, c'est MI1, c'est un neurone très particulier. Ensuite, il va changer, il va devenir TM1, TM4. Et bien sûr, je ne vous parle pas du neurone notch-off, qui est un neurone différent, mais qu'on connaît aussi. D'accord ? Donc, on arrive à spécifier 12 fenêtres temporelles, mais comme chaque fenêtre temporelle produit 2 neurones, on va réussir à spécifier 24 neurones. D'accord ? On n'est pas encore à 100, mais on va y arriver. D'accord ? Donc, on peut arriver, grâce à ce système temporel, à spécifier 24 types de neurones. Donc, quelque chose dont je ne vais pas parler, c'est qu'en fait, il faut aussi considérer la stoichiométrie de ces neurones. Certains neurones comme celui-là sont présents dans chacune des colonnes. Donc en fait, s'il y a 800 colonnes, on va avoir 800 de ces neurones. Mais d'autres neurones ont un beaucoup plus large, d'accord, et vont donc être beaucoup moins nombreux. Et en fonction de leur taille, ils vont avoir soit 5 neurones, c'est de grande taille, ou 800 neurones, c'est de toute petite taille, des neurones qui sont en fait de façon moins abondante. En fait, ce sont les neurones les plus nombreux. Comme là, il y a à peu près 20 neurones qu'on appelle unicolumnaires, c'est-à-dire qu'il y en a un pour chaque colonne. Et il y a 80 types de neurones qui sont en fait de différentes tailles, qui vont en fait traiter l'information, non pas d'une pixel, mais d'intégrer différents pixels les unes à les autres. Donc, comment peut-on arriver à moduler la stoichiométrie de ces neurones en fonction de leur taille ? Parce que jusqu'à présent, je vous ai dit qu'il y avait 800 neuroblastes, et que ces 800 neuroblastes, quelque chose que je vais modifier directement la semaine prochaine, 800 neuroblastes vont produire 24 types neuronaux, mais tous à la même stoichiométrie. Comment on peut changer la stoichiométrie ? En fait, on a réussi à comprendre ça le jour où on a vu que, en fait, le neuroépithélium qui donnait lieu à tous ces neuroblastes n'était pas uniforme. Donc, vous vous rappelez, c'est un croissant, et ce croissant, en fait, exprime un gène avec un homéodomaine VSX dans la partie centrale, OPTX dans la partie moyenne, et RX, trois facteurs de transcription dans différents domaines de ce neuroépithélium. En plus, on peut définir la partie dorsale ou la partie ventrale. Donc, en fait, on peut définir de cette manière-là six domaines. On peut avoir RX dorsal, RX optique dorsal, VSX dorsale, ventrale et ventrale. Donc six domaines. Donc, est-ce que ce que je viens de vous dire va changer en fonction de ces domaines? Oui et non. Non, parce qu'en fait, tous les neuroblastes qui viennent de ce neuroépithélium, quel que soit le domaine, le facteur de transcription qu'ils expriment, RX, dorsal, optique, ventrale, etc., ils vont tous passer sur le même système de cette séquence de facteurs de transcription. La séquence de facteurs de transcription va exactement les mêmes pour tous les neuroblastes. Donc, ils font tous le même circuit. D'accord ? Donc, il y a 800 neuroblastes qui sont exactement les mêmes en fonction de du type de facteurs de transcription qu'ils vont exprimer. Qu'est-ce qui change ? Comment on peut produire plus de neurones ? En fait, je vous donne un seul exemple. Ça, c'est tous les neuroblastes vont être à l'étape où, en fait, ils produisent le premier gène qui s'appelle homothorax. Okay, donc, les premiers neuroblastes qui ont juste né, et vous en rappelez peut-être, ils vont produire un neurone qui s'appelle MI1. D'accord, c'est un neurone qui est unicolumnaire, il y en a 800 de ces neurones. Et en fait, tous les 800 neuroblastes qui sont produits ici vont tous produire un MI1. Stoichiométrie de 1:1. Mais par contre, ce que vous voyez ici, c'est qu'il y a d'autres neurones qui vont produire uniquement dans la partie RX, ou la partie dorsale ou ventrale, ou la partie VSX. Et ces trois neurones, en fait, qui sont produits uniquement dans la partie ventrale, vont être des neurones beaucoup plus larges, dans une stoichiométrie qui est beaucoup plus petite. Donc vous avez PN3 dans la partie VSX, PM1 dans la partie RX ventrale, et PM2 dans la partie RX dorsale. Et là, on commence à comprendre ce qui se passe. C'est qu'en fait, chaque neuroblaste, quand il se divise, il va se diviser pour donner un neurone MI1, et tous les neurones vont faire ça, et un neurone qui sera soit PM2 s'il provient de sous-domaine, soit PM3 s'il provient de VSX, soit PM1 s'il provient de ventral RX. En fait, ce qui se passe, c'est que le neurone qui ignore l'information spatiale, qui est produit par tout le neuroépithélium, va être celui qui est notch on, alors que ceux qui considèrent d'où ils viennent, qui vont être différents, vont les notch off. Donc, dans la séquence temporelle, vous avez le gène homothorax qui donne la première fenêtre temporelle, qui va se diviser, donner deux neurones, un qui va ignorer l'information, MI1, un qui va considérer l'information spatiale, qui va être soit PM1, PM2 ou PM3. Okay, donc, ça permet à cet instant-là de voir comment on peut arriver non seulement à diversifier le type de neurones, puisque là, on a quatre neurones produits par une fenêtre temporelle, pas deux. Et en plus, on peut régler la stoichiométrie, puisque en fonction de la taille du domaine d'où ils viennent, on va avoir plus de neurones qui vont être produits, ou moins de neurones qui vont se produire. Et en fait, ce que vous avez ici, c'est un diagramme qui récapitule tout ce qu'on a dit. C'est qu'en fait, il y a toutes sortes de neurones qui sont produits, soit dans tout, qui ignorent l'information spatiale, par exemple, donc on aura 800 de chacun, ou bien alors qui ne viennent que de la partie optique ventrale, ou que de la partie optique dorsale, qui vont être moins abondants, ou des domaines de plus en plus petits. Et à la limite, on arrive à avoir un type de neurone qui est produit seulement dans la partie dorsale de ce petit domaine ici, qui va avoir 5 neurones à chaque. Donc, si vous voulez, la taille du domaine où ils sont produits va régler la stoichiométrie des neurones. Et donc, en fait, rien que de considérer ce que je viens de vous dire, on a largement l'information pour produire tous ces 100 neurones qui vont occuper toutes ces 800 colonnes qui vont permettre à cette médula de pouvoir traiter l'information qui provient de toutes les 800 pixels. Donc je vais m'arrêter là et vous dire en fait ce qu'on peut conclure, c'est qu'en fait je vous ai parlé d'un système qui est purement déterministe. C'est-à-dire qu'en fait tout est vraiment bien prévu, tout est vraiment bien catégorisé, vous avez cette série temporelle, etc. Tout est vraiment bien très clair, très net. Et qu'en fait, tous les neurones sont spécifiés en fonction de cette série temporelle qui va arriver à produire différents neurones, qui va être modifiée en fonction d'où ces neuroblastes proviennent. Et ensuite, la dernière division asymétrique entre notch et notch-off va permettre de diversifier encore plus ce qui va se passer. Donc la question qu'on va se poser, c'est que peut-être que les mouches sont très simples, d'accord, elles n'ont pas le temps de faire beaucoup de choses. Peut-être qu'en fait, ce système déterministe ne s'applique pas aux vertébrés. En fait, ce que je vous dirai la semaine prochaine, c'est que non seulement le système déterministique s'applique aux vertébrés, mais aussi chez les invertébrés, chez les dendrophiles, il y a aussi une addition d'un système stochastique qui permet d'augmenter la diversité. Et je vais essayer de vous expliquer cela la semaine prochaine. D'accord ? Donc, Le problème pour passer aux mammifères, c'est qu'en fait, la vitesse de développement des souris ou des hommes est beaucoup plus lente que chez un drosophile. Vous vous rappelez, je vous ai dit qu'en fait, les transitions entre les différentes fenêtres de spécification, c'est de l'ordre de A activé de B, B activé de C, c'est de l'ordre d'une heure, une heure et demie. Mais en fait, les spécifications des différentes couches de la souris, c'est de l'ordre de chaque jour, il y a une couche qui est faite, chez l'homme, c'est une semaine. Donc ça veut dire qu'en fait, les temps sont beaucoup plus longs, il faudra essayer d'étendre ces clones, et on ne sait pas autrement comment. Et d'autre part, on a besoin de beaucoup plus de neurones, parce que la diversité cellulaire chez les vertébrés est beaucoup plus élevée que chez les drosophiles. Donc ça fait d'autres systèmes pour essayer d'augmenter cette diversité neuronale, qui peut impliquer soit des déterminations stochastiques, ou bien alors qui va déterminer peut-être la plasticité. C'est qu'en fait, en fonction de où ces neurones se trouvent, qui va être leur voisin, elles vont peut-être changer leurs spécifications. Et en fait, chez les vertébrés, il y a encore une sorte de concept que les gens n'arrivent pas à déterminer. C'est en fait, est-ce que les cellules sont déterminées en fonction de leur destin ? C'est un petit peu difficile à traduire, c'est self-fate ou self-state. C'est qu'en fait, en fonction de l'état de cette cellule, elle peut avoir un transcriptome différent ou en fonction d'une fonction différente. Il nous sera de discuter de cela la prochaine fois. D'accord ? Donc, donner crédit à ceux qui ont fait le travail. En fait, c'est assez étonnant parce que trois des personnes qui ont fait ce travail sont en fait ici à Jacques Monod, travaillent dans le laboratoire de Nikos Konstantinès. Nikos est grec, Félix est bien français et Isabelle est espagnole. Et un travail plus récent a été fait par Nechel, qui est maintenant un professeur au Star Institute à Kansas City. Et d'autres personnes dans le laboratoire travaillent sur d'autres domaines, soit sur le développement neural, soit chez les fourmis, dont je vous parlerai à la fin de deux derniers cours. Et ça, c'est tous les gens qui sont partis du laboratoire, qui ont établi leur laboratoire quelque part dans le monde. Merci.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.